Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être fidèles au réveil culturel tous les matins à la radio à 6h du matin ou quand vous voulez en passant par exemple par l'abonnement au podcast disponible entre autres sur franceculture.fr. Aujourd'hui, je vous propose de réécouter un réveil culturel spécial Europe avec un invité de marque, le cinéaste Wim Wenders. Bonjour Wim Wenders.
Bonjour Toufik Hakem.
Alors aujourd'hui Wim Wenders, quel genre d'Européen êtes-vous d'ailleurs? Est-ce que vous vous considérez comme Européen?
Je suis Européen de la première heure. Je suis né avec ce désir et pour moi, quand j'étais gosse et quand j'ai vu Adenauer et De Gaulle secouer la main, c'était le plus grand moment historique et pour moi l'Europe était et est restée la plus grande utopie de ma vie.
Et pourtant, aujourd'hui, vous voyez bien que les Européens sont sceptiques. Vous-même, vous avez été déçu par la construction européenne telle qu'elle se fait aujourd'hui?
J'étais déçu, pas nécessairement au début, parce qu'évidemment, il fallait faire des premiers pas. Les premiers pas, c'était entre la France et l'Allemagne. C'était déjà fantastique pour moi. Et peu à peu, ça s'est construit. Et ça s'est construit surtout dans le domaine de l'économie et dans les finances. Fallait commencer avec ça. Mais finalement, ce n'était que ça. Et c'est resté ça. Cette Europe est restée une construction économique. La dimension de la culture européenne, c'est vraiment ça. Ce qui nous réunit, c'est tous nos passés, toutes nos histoires, toutes les histoires des guerres, toutes les histoires de nos philosophes, de notre littérature, de notre musique, c'est ça ce qui fait l'Europe. Et cette Europe émotionnelle n'a pas été construite. Et maintenant, c'est ça ce qui manque. Et maintenant, comme il s'agit que de l'argent, les gens ont ras-le-bol. Les gens trouvent, ça les touche pas, cette Europe. Et pour moi, c'est ça le drame de l'Europe, qu'on n'a pas trouvé un moyen de traduire ça dans une nouvelle patrie.
Vis-à-vis des gens qui n'y croient plus, comment vous défendez encore ce qui a été votre rêve, vous venez de nous dire, Wim Wenders?
Je trouve que les gens qui sont fatigués de l'Europe aujourd'hui, ils oublient aussi le passé. Ils ne se rappellent pas ce que c'était avant. Ils ne se rappellent pas que cette Europe de nations qui existait avant, cette Europe de toute pensée nationaliste ou séparatiste, c'était une Europe de guerre et c'était une Europe de sang. Et tous ces gens oublient ça aujourd'hui. Et en mettant en cause cette idée de l'Europe, je trouve qu'on retombe dans quelque chose qui est beaucoup pire et qui était la cause d'une souffrance incroyable pendant des centaines et centaines d'années en Europe. Et il ne faut pas retomber dans ça. Il faut plutôt réinventer l'Europe des émotions et l'Europe de nos cultures, et il faut réinventer cette grande toit que l'Europe peut être dans cette mondialisation dans laquelle on vit. Cette toit européenne, ça peut nous protéger mieux que nos petites nations.
Pour vous, c'est quoi la culture européenne, Wim Wenders?
C'est la somme de tous les penseurs, tous les musiciens, tous les architectes, tous les auteurs. C'est la somme de notre histoire, c'est aussi la somme de nos guerres et c'est la somme de nos conflits. Tout ça fait que on a vécu dans ce continent privilégié qui était un peu, pendant des centaines d'années, qui était un peu le berceau de l'humanité, des droits de l'homme et tout ça. C'est ça ce qu'il faut réinventer, cette Europe des droits de l'homme, cette Europe des pensées, cette Europe de la solidarité et de qui a été le désir de la Révolution française, parce que égalité, fraternité, liberté, c'est ça ce qui doit être la fondation d'une Europe du futur.
Pour ceux qui disent que toutes les cultures régionales, toutes les cultures de pays risquent de disparaître avec cette uniformisation de la mondialisation d'une part, mais aussi d'une Europe fédérale, quel mot choisiriez-vous pour entrer dans le débat et pour leur dire que ça peut être autre chose, Wim Wenders?
Bon, on se rend compte que pour beaucoup de gens, il y a trop de systèmes globaux. Il y a leur propre pays. Pour beaucoup de gens, c'est déjà pas mal, c'est déjà beaucoup, c'est déjà une législation, c'est déjà une sécurité sociale, c'est plein de choses. Donc, Europe représente une autre structure au-dessus, et puis il y a encore une plus grande structure, c'est le monde. Mais au-dessous du pays, il y a aussi la région. Et la région, c'est ce qui réunit les gens de la manière la plus émotionnel. C'est ça leur goût et leur cuisine, et c'est ça leur couleur, et c'est ça leur météo. Et tout ce qu'ils représentent, c'est plutôt leur région, c'est pas vraiment une nation. C'est pas seulement le pays, c'est plutôt leur région. Et très souvent, le pays, c'est déjà l'ennemi de cette région. Et donc, l'Europe, c'est encore l'ennemi le plus grand. Et le monde, c'est le plus grand ennemi de tout ça. Et donc, il faut donc trouver un moyen de lier tout ce que nous lie en nos régions, tout ce qui nous, on sait de quoi on est fait, ça, c'est représenté dans nos villes ou dans nos régions. Il faut pouvoir lier ça à une structure européenne et pas d'abord à notre pays et puis à l'Europe et puis au monde. Il faut trouver un autre système de valeurs entre l'identité, c'est quelque chose de tellement fragile aujourd'hui, l'identité culturelle, l'identité sociale, tout ça c'est déjà en question, et trouver une façon que cette identité qui est plutôt régionale soit protégée, qu'il ne faut pas une idée nationale, il ne faut pas la réinvention de tous les petits pays européens pour protéger ça, mais qu'il faut trouver une autre façon pour que l'Europe peut devenir le toit qui protège nos identités et nos régions.
Buonasera.
Nos dice que no se puede servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos a la riqueza.
We are used to the big American limousines, and this is a Mr. Bean car by comparison.
En las familias discutimos, en las familias a veces vuelan los platos. No voy a hablar de la suegra.
Alors, Wim Wenders, et là on va arriver à votre actualité, c'est la sortie en DVD de votre documentaire autour du pape François. Est-ce que vous pensez que l'Europe doit réaffirmer ses racines chrétiennes?
Oui et non. Les racines chrétiennes, historiquement, dans notre culture européenne, ont été fondamentales. À un moment donné, et notre histoire, si on pense en arrière, au Moyen-Âge, bon, ces racines chrétiennes ont fait beaucoup de mal aussi, ont fait énormément de mal, ils ont provoqué des guerres infernales en Europe, mais ça fait partie de ce qui a fait l'Europe. Mais en même temps, si ça devient le seul fondement, ce serait de nouveau la même catastrophe comme déjà au Moyen-Âge. La pensée chrétienne, tant que c'est à la base de notre culture européenne, ça peut pas être la seule base d'une Europe de l'avenir. Ça peut pas être éliminé, mais à la rigueur, rien ne devrait être éliminé pour faire une base européenne où tout le monde peut se sentir chez lui. On doit commencer à penser que chaque personne est d'abord une personne. Et chaque réfugié est d'abord une personne. C'est quelqu'un avec des droits. Aujourd'hui, nous, en Europe, on commence à penser que c'est nous qui habitons ici, on a les droits d'être ici. Mais pourquoi? À la fin de la guerre en Allemagne, il y avait 10 millions d'Allemands qui venaient d'ailleurs, de pays qui s'appellent maintenant l'Ukraine ou la Pologne. C'était des réfugiés. Ils avaient, pour ainsi dire, avec la pensée d'aujourd'hui, ils n'auraient pas eu même le droit de devenir des Allemands. On oublie trop vite le privilège d'être européen et aussi que ça représente aussi un privilège envers les autres, envers toute l'humanité. C'est pas maintenant un privilège pour ceux qui, tout ça ici, on va faire un grand mur et on va réjouir de ce privilège. Ça, c'est ridicule. Ça, c'était peut-être le Moyen-Âge. C'était possible au Moyen-Âge, oui. Mais plus aujourd'hui.
Vous le savez très bien, Wim Wenders, je pense que Angela Merkel a payé très cher le fait d'accueillir les réfugiés en Allemagne.
Ouais, elle a payé un grand prix. Peut-être sa culture de welcoming, d'accueil, était peut-être un peu naïf tout au début. Mais quand même, je suis toujours très fier qu'elle a fait ça. C'était le seul moment dans ma vie que j'étais fier d'être allemand. Quand ça s'est passé, quand cette million est arrivée en Allemagne, j'étais au Canada. Le Canada est un pays d'accueil par excellence. Tous les Canadiens viennent d'ailleurs. Et au Canada, dans tous les journaux canadiens, les grands titres, c'était partout. On n'aurait pas cru que les Allemands auraient pu être si généreux que ça. Chapeau. Et ça venait d'un pays qui était donc un pays d'accueil. Et moi, j'étais fier. Je me suis dit, oui, chapeau. J'ai pas vu que c'était peut-être un peu trop optimiste ou un peu trop naïf. Finalement, ça lui a cassé son élan, voilà. Aujourd'hui, c'est le contraire. Hein. Aujourd'hui, on a peur de chacun qui veut arriver, on veut fermer les frontières. La Méditerranée, qui est un continent libre, pour ainsi dire, est devenue une frontière. Et l'Europe est en train de dénoncer ses propres fondations. Liberté, égalité, c'est une grande chose, et fraternité. On ne veut plus rien entendre de tout ça.
Vous comprenez pourquoi ?
Oui, je comprends. Un peu. Je comprends que ça fait peur aujourd'hui, surtout comme la balance sociale est cassée, en France aussi bien qu'en Allemagne. La pauvreté, même aux États-Unis, c'est même pire. Donc, les Européens, et avec eux, tous les gens du monde, ont peur du fait que le monde devient une seule unité. Et dans cette seule unité, si tous les produits peuvent voyager partout, et si nous, les Européens, on peut vendre nos voitures partout, que donc il y a une liberté du marché, mais les gens, s'il vous plaît, tous ceux qui veulent conduire nos Mercedes, restez dehors. Ça, c'est pas possible. On peut pas vouloir une liberté du marché, on peut pas vouloir accepter la mondialisation. Nous, en Allemagne, on n'a même pas un mot pour ça. On appelle ça la globalisation. Globalization. Vous voyez, c'est tellement effrayant qu'on ne peut même pas prononcer. Mais c'est le fait que le monde devient un seul endroit. Les soucis des gens du monde entier, c'est les mêmes. C'est le climat. C'est la pauvreté. C'est l'injustice. On est les citoyens du même endroit, mais en même temps, dans la politique, on se définit toujours par des nations. Et si on commence à se définir par des nations en Europe, on doit abandonner la notion de l'Europe. Et donc, partout, par peur, toutes ces petites nations commencent à se définir de nouveau comme nations. Et donc, il y a cette idéologie idiotique, America first, maintenant c'est Italy first, France first, Belgium first, Deutschland first. Et ça, c'est la fin de la civilisation. Si dans chaque endroit du monde, on dit « nous d'abord », si on dit ça, on va résoudre aucun problème, On va créer des nouvelles guerres infernales. On va créer des injustices encore plus grandes. Et c'est ça ce que tous ces gens, tous ces nationalistes en Europe en ce moment ne comprennent pas, que l'avenir qu'ils sont en train de peindre, de s'imaginer, c'est le passé. Et le passé était une histoire de guerre.
La famille a des difficultés, et ces difficultés se superan con amor. Saber escuchar. Las diferencias nos dan miedo porque nos hacen crecer. Non è debolezza la tenerezza, è fortezza.
Wim Wenders, vous avez parlé de l'Europe avec le pape François.
Ah oui, on avait pas mal de conversations au sujet de l'Europe. Et finalement, même dans le montage de 2 heures, il y avait encore une grande partie. Et finalement, j'ai dû couper. Comme c'est un film que j'ai fait vraiment pour le monde entier, pour tous les gens, pas seulement pour des catholiques, j'ai donc enlevé le chapitre sur l'Europe. Et par François, c'est plein du fait que l'Europe n'accepte pas ses propres responsabilités. Une responsabilité envers sa culture, de la culture, de la musique, de la littérature, de la justice aussi, des droits de l'homme. C'est quand même ici en Europe que cette idée est née. Et c'est ce qui, à son avis et à mon avis aussi, constitue l'Europe. Qu'on a eu toutes ces idées et que toutes ces idées ont produit finalement l'Europe telle qu'on a connue. Sauf que dans cette Europe telle qu'on a connue, ces idées ont toujours pris dernier rang. Toutes ces idées de la culture, de la justice, de la fraternité, de l'égalité, c'était toujours des idées secondaires dans cette Europe qu'on a vécu depuis 30, 40 ans. La culture, notre culture, et tout ça, ça fait partie de la culture aussi. Les droits de l'homme, ça fait partie de notre culture. Ces questions, c'était toujours secondaire. L'Europe a été fondée avec des notions économiques et financières et pas avec des notions de droit et pas avec des notions de culture.
Êtes-vous arrivé à faire un film sur le pape, Wim Wenders? C'était plutôt inattendu. Alors bien sûr, quand on a vu le film, on voit que vous êtes parti de Saint-François d'Assise pour arriver au premier pape qui porte ce prénom. Le fait qu'il vienne d'un continent qui n'est pas européen aussi, ça vous a intéressé. Mais quelles sont les autres raisons?
Mon Saint-François, il a vécu il y a 800 ans. Mais c'était un grand visionnaire et révolutionnaire de l'humanité, pas seulement de l'Église. C'était le premier écologiste du monde. C'était le premier qui a compris il y a longtemps que la balance entre la nature et les hommes commençait à l'époque à être détruite. Aujourd'hui, on voit les conséquences. Et le pape François, c'est le premier à oser de prendre ce nom d'un grand visionnaire de l'humanité qui a compris que donc c'est pas seulement notre rapport avec la nature, c'est aussi la solidarité avec les sous-privilégiés qui fait qu'en ce moment, on a des soucis sur notre planète. Parce que la balance entre les riches et les pauvres, c'est devenu de plus en plus impossible. Et Saint François a laissé un autre grand héritage. C'est que c'était un homme de paix qui a voyagé en Égypte à l'époque à la plus grande autorité d'Islam pour finir les croisades, les guerres les plus sanglantes de l'époque entre les religions. C'était, et donc ces trois choses, l'écologie, la justice sociale et la paix entre les religions, ça c'était un programme incroyable que ce pape a annoncé en prenant, en acceptant ce nom, en s'appelant François. Et donc je me suis dit, ça doit être un homme avec un incroyable courage d'affronter les plus grands problèmes de l'humanité avec, en acceptant ce nom. Et il a tenu sa promesse, je trouve. Il a attaqué ces trois grands problèmes.
Et du coup, vous avez fait ce film qui a été, c'est le mot que l'on puisse dire, fraîchement accueilli par la presse. On se souvient même de cette polémique et de votre réponse au quotidien Le Monde, qui vous disait que vous avez fait quand même un film commandé par le Vatican, très bienveillant, et qui ne parlait pas du tout des problèmes qui secouent le Vatican. Mais ceci dit, c'est vrai, on avait l'habitude de vous voir rendre hommage à des réalisateurs comme Nicolas Rey ou à des musiciens. On se souvient de Buena Vista Social Club. Là, on vous trouve dans un registre inhabituel.
Je trouve pas tellement. Je trouve que c'est un incroyable aventurier aussi, cet homme. Comme programme de l'Église, de dire il faut s'occuper de la planète. C'est ça la plus urgente d'aujourd'hui. Je crois que c'est un homme de parole. Il fait ce qu'il prêche et il dit ce qu'il pense. Oui, ça c'est déjà quelque chose, mais il vit aussi ce qu'il pense. On vit quand même dans une époque où la plupart des hommes politiques dans le monde entier c'est devenu des cyniques.
Mais que l'Église devienne au centre de votre préoccupation, c'est pas un signe que vous ne croyez plus à la politique, à la culture, aux intellectuels, Wim Wenders?
Je ne crois plus à la politique, ça c'est vrai, comme institution morale. La perte d'une moralité aujourd'hui est infernale. Et ça commence à infiltrer toute région de nos vies. Le fait que aujourd'hui, parce que les politiciens le font, mentir, ça devient quelque chose de nécessaire ou acceptable. Et j'ai des problèmes de me confier aux intellectuels aussi. Je voudrais bien qu'il existe un pays en Europe où les ministres soient faits par des experts, par des hommes de culture, par les sociologues, et pas par des hommes de parti et de politique. Je voudrais bien.
Wim Wenders, est-ce qu'on peut être athée? Vous l'êtes toujours athée? Vous avez vraiment quitté le domaine religieux et être en admiration devant le pape François?
Je vois un homme avec une grande intégrité. Je vois un homme avec un énorme courage de vraiment affronter les plus grands problèmes de notre monde et de créer une transparence dans une institution qui ne l'est pas. Et je ne suis pas contre la religion. Je suis un homme religieux moi-même. J'ai quitté l'Église catholique en 68. Évidemment, j'étais un étudiant socialiste. Mais je suis un homme religieux. J'ai converti au protestantisme. Aujourd'hui, je ne suis ni protestant ni catholique, mais je suis un chrétien œcuménique. Et j'ai des grands amis qui sont athées. Et d'ailleurs, ce film que j'ai fait, Pape François, un homme de parole, je l'ai montré à mes amis athées. Et j'en ai vu quelques-uns aux larmes parce que ça les a énormément émus. Et le Pape François leur a parlé au cœur. Beaucoup plus quelquefois que mes amis catholiques. Donc, on a fait un film qui est extrêmement politique aujourd'hui, qui touche des choses qui sont au centre de nos problèmes aujourd'hui, et que le fait que ça vient d'un pape ne devrait pas déjà être un préjugé de ne pas voir ce film et de ne pas accepter que ce mec, il a énormément de courage et que c'est un des rares hommes intègres sur cette planète.
Oui, mais c'est tout à la gloire du pape, alors que vous aviez habitué, Wim Wenders, d'être plus nuancé. Quand vous tourniez vos films avec des humains, ils étaient d'abord des humains avec aussi leurs faiblesses.
Mais oui, c'est pas possible, il a des faiblesses. Les braves musiciens de Buena Vista Social Club, ils avaient des faiblesses aussi. Pina Bausch, il avait des faiblesses. Sébastien Salgado, c'est un homme avec des grandes faiblesses. Quand même, c'est tous des gens, des hommes et femmes que j'admire énormément, qui sont des héros de notre époque, je trouve, dans leur domaine, parce que ils ont osé de maintenir un modèle de moralité et de beauté et de dignité.